à l'autre sagesse. Il y a quelques petites précisions qui sont demandées. Quelle est la première conséquence de la sagesse philosophique? La conséquence immanente, c'est la purification de notre intelligence, lui redonner sa souplesse analogique, lui redonner sa soif de contemplation et de recherche de la vérité. Ça, c'est le fruit direct de l'habitus de sagesse philosophique, l'amour de la sagesse, être l'ami de la sagesse. Est-ce que la première conséquence est-elle de nous appauvrir ou de nous enrichir? De nous enrichir en nous appauvrissant.
Mon intelligence.
chose, c'est de raisonner. C'est de réfléchir sur mon expérience. C'est d'induire, remonter jusqu'au principe. Alors, voyez, en ce sens-là, la conséquence première de la sagesse philosophique, qui est la contemplation, rien n'est plus grand que contempler. C'est ma finalité propre d'être intelligent. Je suis fait pour Dieu. Et rien ne m'appauvrit plus que de m'apercevoir que je ne peux être qu'un mendiant de Dieu. Il faut vivre cette pauvreté de mendiant. Or, l'intelligence n'aime pas d'être mendiante. C'est pour ça qu'on veut toujours être autonome, autodidacte. Être disciple de Dieu, c'est être totalement relatif à Dieu. Rien n'est plus pauvre que ça. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pauvreté radicale. Je n'ai aucun droit à contempler Dieu. Il ne peut que m'être donné gratuitement. Surnaturellement. Et cela fait comprendre, du reste, la haine du démon vis-à-vis du Christ et la haine de tous ceux qui se disent athées par rapport à ceux qui tendent vers Dieu. La vie religieuse, c'est celui qui a compris qu'il fallait être mendiant intellectuellement de la vision béatifique. C'est la perle. Alors je vends tout pour ça. Et le démon est suffisamment intelligent pour s'apercevoir que le vrai religieux, il est témoin que mon intelligence est faite pour Dieu. Je témoigne de ça. En suivant les cours de philosophie, vous témoignez que votre intelligence est faite pour Dieu. Alors, prenez-en conscience, c'est mieux que de le faire sans du tout le comprendre. Puisque vous cherchez la vérité et vous acceptez de perdre du temps tous les jours pour écouter un cours qui de temps en temps vous éclaire, de temps en temps vous met dans le tunnel. Le philosophe cherche-t-il d'abord l'homme ou Dieu? Le philosophe devenu sage, donc ayant atteint sa finalité, ce pourquoi il est philosophe, recherche Dieu. Le philosophe chercheur, intelligence liée à la sensibilité, lié à l'expérience, cherche l'homme. Et je passe constamment de l'un à l'autre. Et ce n'est pas gênant qu'il cherche à connaître l'homme en profondeur, cherche à connaître Dieu. Mais il ne faut pas s'arrêter qu'il cherche à connaître Dieu. Cherche à connaître l'homme. C'est ça qui est merveilleux. selon l'ordre de recherche de l'imparfait vers le parfait. On cherche à comprendre la richesse de mon expérience la plus forte qui soit. L'homme, par l'amour d'amitié, l'ordre génétique de l'imparfait vers le parfait. L'homme est mon laboratoire. Le philosophe cherche tout le temps à connaître l'homme. Mais le philosophe ne s'arrête pas à l'homme. Il recherche Dieu, qui est sa fin. Alors, l'ordre de sagesse, Dieu, ce qui est le plus connaissable pour moi, celui qui dépasse tout. Et donc tous les deux ont une priorité, selon l'ordre génétique, selon l'ordre de sagesse. Vous arriverez petit à petit à bien comprendre la différence entre l'ordre génétique et l'ordre de sagesse. Et ça, c'est capital. Et Aristote a compris ça. Parce que sur l'ordre génétique, c'est la causalité matérielle qui est première. Sur l'ordre de sagesse, c'est la causalité finale qui est première. Alors, où vous recherchez la fin? Où vous recherchez ce qui est le plus proche de vous? Ce qui est le plus en connaturalité avec vous? Ce qui est le plus en connaturalité avec moi, c'est ce que je touche. Ce qui est le plus profond, c'est ce que je cherche au-dessus de tout, Dieu. À connaître et aimer. Et quand j'ai découvert Dieu, Dieu est plus proche de moi que tous les objets extérieurs, puisqu'il n'y a plus d'extériorité, il n'y a plus que l'intériorité. Et la confusion de ces deux ordres met en moi un malaise terrible qui fait que je ne peux plus avancer. Et le malaise vient de moi parce que je n'ai pas assez d'humilité pour être le mendiant. Je crois que le manque de pauvreté est presque toujours le malaise fondamental qui est en nous. Tant au plan philosophique qu'au plan divin. C'est la première des béatitudes. Et c'est la béatitude qui disparaît le plus vite. Quand vous êtes en dehors d'une culture chrétienne, première béatitude de la pauvreté n'existe plus. C'est Paganis qui reprend. Qu'est-ce qui unit Gog et Magog? C'est qu'on veut s'enrichir. On ne veut plus de la pauvreté. On veut exalter ses droits. sagesse de Dieu, chacun d'entre nous. Et il y a la marque de Dieu. Et le philosophe, il s'est cherché cette marque de Dieu. Et Thomas d'Aquin, première œuvre philosophique qu'il fait et qu'il juge ne pas avoir été assez faite avec la philosophie d'Avicenne. Grande recherche philosophique, c'est la substance et la relation. Les deux extrêmes. Entre Dieu et moi, il n'y a pas d'unité substantielle. Certains l'ont dit, ce sont les panthéistes. Spinoza. Entre Dieu et moi, il y a une relation. Et la relation mène à saisir ce lien de dépendance. Et ce lien de richesse. La substance et la relation. D'une certaine manière, c'est les deux extrêmes. Essence quantitative de l'être, de ce qui est. Et je vois que ce qui caractérise l'ordre surnaturel, c'est d'unir les deux. Et ceci est vrai pour l'ordre surnaturel et dans les réalités philosophiques que j'expérimente, les deux sont toujours distincts et plus distincts. C'est pour ça qu'au fond, il ne peut y avoir que deux métaphysiques, celle de l'être et de la substance, celle de la relation. La substance n'exclut pas la relation, mais la relation exclut la substance. Il ne peut y avoir qu'une seule métaphysique, celle de la substance. L'autre sagesse, c'est la sagesse chrétienne, mystique. Celle qu'en entrant religieuse, on doit chercher avant tout la sagesse mystique. Et voyez, ce qu'il y a d'assez extraordinaire, c'est que ces deux sagesses, sagesse philosophique, sagesse mystique, toutes les deux reposent sur le jugement d'existence. Ceci est, au plan philosophique, ceci est dans le temps, ceci est relatif. Ceci est dans l'éternité, au-delà de l'instant. et un code. Je t'écrirai sans signer mon nom, c'est plus discret. Pour toi, je mettrai un petit oiseau dans le coin. Tu sauras que c'est moi. Pour toi, je mettrai une petite fleur dans le coin. Et tu sauras que c'est moi. Petite violette. Merveilleuse pivoine. Qui prendra toute la lettre que j'écrirai dedans. cette sagesse est-elle possible pour moi? Qu'est-ce qu'elle exige? Quel est son caractère propre? Sa caractéristique? C'est vraiment une nouvelle sagesse. Elle se fait dans la foi. Son caractère tout à fait propre, c'est de se faire dans la foi. La foi implique un jugement d'existence. Je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre. D'intelligence tout à fait particulier, c'est un acte d'intelligence qui n'est pas un jugement métaphysique, qui n'est pas un jugement mathématique, qui n'est pas un jugement scientifique, qui n'est pas un jugement prudentiel. Vous voyez, je le définis par la négation. C'est un jugement qui se fait à partir d'un amour. C'est donc un jugement affectif. Passez à Orange. N'oubliez pas de vous rappeler ce concile si important qui a précisé que tout acte de foi naissait en nous gratuitement à partir d'un amour. On a appelé ce premier acte d'amour permettant on l'écoute dans la mesure où c'est intelligible. Un ami, on l'écoute parce qu'on l'aime. Et c'est pour cela que je peux écouter un ami sans tout comprendre. Tandis que je n'écoute vraiment un cours donné par un professeur que dans la mesure où je comprends. Si au bout de 3 minutes, vous ne comprenez plus, vous arrêtez d'écouter. C'est pas pour moi. Je me suis trompé. Et si je pouvais quitter la salle, je partirais. Parce que c'est pas pour moi. J'allais écouter un cours de philosophie. Oh, il m'est donné un cours de mathématiques supérieures. Devient pour nous occasion d'aller plus loin. Or, quand il s'agit de Dieu et quand il s'agit d'écouter en croyant, on écoute Dieu qui me parle, qui m'enseigne, et je sais que cet enseignement de Dieu dépasse Augustin. visualaire. Je ne sais pas expérimenter. C'est notre ami cosmonaute qui m'a raconté ça. Comment du haut de la lune, il m'a regardé et m'a dit bonjour. Et comment à ce moment-là, il me voyait de façon très étonnante. La petite terre bleue. Très curieux. Alors l'autre dira, ah je te crois, parce que tu es mon ami. Et je crois que tu me transmets. Puis tout d'un coup, ah, je ne sais plus très bien, mais je crois que c'est ça qu'il m'a dit. Oui, très bien. Ça va avec tout ce que tu dis avant, c'est normal. Ou bien si vous dites quelque chose de tellement extraordinaire, là, je ne suis plus. C'est possible, mais je n'ai pas envie de croire. Ça me semble impossible. Parce que l'ami était marseillais, vous comprenez? Alors, il complétait. Il avait beaucoup raisonné. Et on dit, attention, tu complètes, c'est pas juste. De temps en temps, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Chez les théologiens hegeliens, tu complètes. Tu crois que c'est vrai et c'est pas vrai. Tu es peut-être sincère, c'est possible. Et un jour, fais attention, hein, tu verras. Un hegelien arrivera au ciel. Patatras, tout ce que j'ai fait, c'est moi. Et c'est rien. La distance entre ma sincérité philosophique et la vérité. La foi en l'ami, c'est le mode le plus fragile et le plus faible de la connaissance. L'opinion. Vous voyez, on vous raconte des opinions. Il a dit ça. Tu l'as entendu. Non, c'est un autre qui me l'a dit. Ah bon? Et l'autre? Ah, et un autre? Oh, je l'ai rêvé. C'est comme ça que ça se propage. C'est extraordinaire. Alors, les opinions. Mon ami, c'est le mode le plus faible de connaissance. Et c'est ça l'analogue de la foi surnaturelle. Le contenu intellectuel me dépasse complètement. Mais le poids d'amour vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du Christ, est énorme. La foi surnaturelle, la foi chrétienne, me dépasse complètement, c'est un mystère. Ma foi est un mystère. Je ne peux pas ramener ma foi à une expérience humaine. Il y a un pont. Je suis cosmonaute de Dieu. C'est ça le croyant. Pour mondial. Quand vous dites que vous croyez dans le Christ, que par la grâce du Christ, vous êtes fils bien-aimé du Père, vous êtes en face du Père, vous ne voyez rien, mais vous savez qu'il y a en vous quelque chose qui vous connaturalise au Père, et que vous êtes lié à lui, d'un lien éternel. Et que vous êtes seul capable de le briser, ce lien. Il est remis entre vos mains. Il est remis à votre intelligence. Il est remis à votre cœur. Vous aimez et vous croyez en Dieu, dans le Christ, que c'est bien ses paroles. Jésus nous a dit du haut de la croix, voilà ta mère. En regardant Marie, que Jésus du haut de la croix nous a appelés et qu'il continue de nous appeler et de nous dire j'ai soif. surnaturel est pour moi un mystère. Quand vous êtes en face d'un incroyant, vous ne pouvez pas prouver scientifiquement ce qu'est votre foi. Elle échappe à la science, elle échappe à la psychologie. Elle est divine. Vous faites un acte qui est commun à vous et à l'Esprit Saint, au Paraclet, qui est commun à votre bonne volonté. Ça me dépasse. recevoir et coopérer avec ce don. Coopérer dans la gratuité de l'amour. Coopérer en essayant de comprendre ce qu'il y a d'intelligible et d'intelligent dans ce don. Développement mystique. Développement théologique. Vous voyez que c'est à partir de la foi que je peux comprendre l'ordre qui existe entre la sagesse mystique et la sagesse théologique. La sagesse mystique, je développe ce don dans sa qualité d'amour. Et c'est premier. Je développe ce don par la parole, par la signification de la parole, et pour comprendre toute la signification.